Nous allons continuer dans notre série d'études des grâces que Dieu a pour nous. Nous avons vu qu'il avait une place pour moi. Nous avons vu qu'il avait une mission pour moi, qu'il avait une adoption pour moi. Et puis aujourd'hui, nous allons voir une prière pour moi. Une prière pour moi. Jésus a une prière pour moi. Nous allons voir, certainement pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, puis le dimanche prochain, Dieu voulant, trois situations de prière pour chacun d'entre nous, où Jésus prie. Et la première sera dans Jean chapitre 17. C'est là où vous pouvez ouvrir vos Bibles, Jean chapitre 17. Nous avons une prière que Jésus a exprimé pour ses disciples de tous les âges, de tous les temps, pas seulement les onze de son époque, mais ensuite tous les disciples depuis, tous ceux qui suivent le Seigneur. Donc c'est une prière pour eux. Ensuite, aujourd'hui, Dieu voulant, nous verrons aussi dans une prière pour Pierre. Jésus prie pour Pierre. Ils ne se rendaient même pas compte que sa vie était menacée, mais heureusement que Jésus a prié pour lui. Et puis certainement que ce sera la semaine prochaine, nous avons cette prière que Jésus nous donne sur le sermon sur la montagne, dans le sermon sur la montagne, où il nous apprend à prier, il nous donne une prière modèle à prier et sur laquelle nous pouvons modeler toutes nos prières. Nous allons commencer par la prière sacerdotale de Jésus, sa prière sacerdotale, c'est-à-dire sa prière en tant que prêtre pour nous. Il est notre seul prêtre et il est vivant, on n'a pas besoin d'un autre. Et donc Jean chapitre 17, et vous voyez que déjà au verset 9, Jésus dit dans sa prière, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc Jésus dit, je prie pour. C'est cette prière de prêtre, c'est-à-dire que le prêtre est celui qui se tient entre Dieu et l'homme pécheur. Et Jésus se tient entre les deux et il prie en notre faveur. Il s'adresse au Père et pour nous. Pourquoi ? Qui sont ceux pour qui il prie? Parce qu'il a dit, je prie pour cela et non pas pour le monde. Et il explique pourquoi c'est pour eux qu'il prie. Et il continue, il dit au verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leurs paroles, afin qu'ils soient tous un. Et donc il prie non pas seulement pour les disciples qui sont là devant lui, dans la chambre haute, ou peut-être est-ce que c'était dans le jardin de Gethsémané, mais il prie pour ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont reçu, et ceux qui, au verset 8, il dit, « Je leur ai donné ma parole, les paroles que tu m'as données, ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Donc voilà, pour cela, celui qui ont reçu ma parole et qui ont cru que toi, tu m'as envoyé. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils croient, qui croient, je crois, et... avant de trop élaborer sur ce que peut inclure ce terme « croire en lui », parce que si vous avez navigué dans les différents mouvements chrétiens, tout le monde n'exprime pas les choses de la même manière, et tous parlent de croire, mais tous n'ont pas le même contenu dans le mot. Alors, laissons la Bible décider, et nous allons voir... un peu cet homme qui a cru, mais qui n'avait aucun arrière-plan religieux, qui n'avait pas, il y avait, personne ne l'avait donné une prière. Et pourtant, il a demandé quelque chose à Jésus, et il a obtenu ce que Jésus avait de meilleur. Et je ne sais pas si vous savez de qui je pense, mais je pense à ce brigand sur la croix près de Jésus. Il a fait une prière, elle était courte, et quand il a prié, eh bien, la réponse qu'il a eue, c'est « Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Ah, une réponse, hein, on ne peut pas avoir mieux que ça. Qu'est-ce qu'il a dit pour que Jésus réponde de cette manière, hein? Parce que c'est sûr que si on faisait un sondage dans la rue et puis on dit est-ce que ça vous intéresse d'aller au paradis, ben, tout le monde, ça intéresse tout le monde. Et comment est-ce que vous croyez qu'on va y arriver? Alors là, les réponses peuvent être multiples. Et chacun son idée. Mais ce qui importe, c'est comment cet homme, et c'est dans Luc chapitre 23, eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme, c'était pas quelqu'un qui avait grandi dans le temple, ni quelqu'un qui avait fréquenté, sinon il ne serait pas sur la croix, il n'avait pas fréquenté les milieux où on lui avait donné une éducation. Il est là, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il se serve du contenu des moqueries contre Jésus pour orienter ses pensées. Parce que, vous voyez dans Luc chapitre 23 et verset 35, il entendait les gens disaient « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Alors lui, il a capté des mots là-dedans et il a compris qu'il y a une question de sauver et que cet homme serait le Christ. Eux se moquaient, mais lui a pris le contenu. Il s'est dit, mais s'il accuse, et s'il lui dit, il a sauvé les autres, ben c'est qu'il est capable de sauver, même, parce que même ses ennemis reconnaissent qu'il a sauvé les autres. Et puis, s'il est le Christ, eh bien, lui se dit, mais moi, je viens de l'entendre sur la croix dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit qu'un homme, dans cet état-là, ayant subi ce qu'il subit, puisse dire « Père, pardonne-leur », c'est pas un homme comme les autres. Ça, il a déduit ça, même si lui, au début, parce qu'ils étaient sur la croix pendant 3 heures, si lui, au début, se moquait avec son ami, se moquait de Jésus, mais quelque part, dans le courant de ces heures-là, en entendant ce qui se disait, en voyant ce qui se passait, il s'est dit, celui-là, c'est pas comme les autres. Et alors, il change le langage. Et il se dit, mais celui qui peut pardonner, ceux qui l'ont crucifié directement ou indirectement, hein, même finalement, nous l'avons crucifié indirectement aussi, hein, par nos péchés. Mais il dit, cet homme-là, eh bien, c'est pas un homme comme les autres. Et le brigand s'adresse à son ami et il lui dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-là n'a rien fait. Et là, tout d'un coup, il est en train de distinguer, il fait une distinction, il a dit, nous, moi inclus, nous avons péché. Nous, c'est normal que nous soyons jugés. Mais lui n'a rien fait. Donc déjà, il y a une reconnaissance de son état de pécheur, il y a une reconnaissance de son péché. Et puis ensuite, il se tourne vers Jésus. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est Luc 23, 42. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Prière très courte. Finalement, on dit, mais il ne savait même pas quoi dire. Il dit, je sais que je suis pécheur, je sais que toi, tu es autre chose. Et c'est une prière qu'on n'adresserait qu'à un Dieu incarné, hein, parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse répondre à son souhait. Il n'a pas su exactement quoi demander, mais il s'est adressé à la bonne personne. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qu'il faut soutenir. Parce que souvent, on dit, mais je ne sais pas comment dire les choses. T'occupe pas. Ce qui importe, ce n'est pas ce que tu sais dire, c'est que tu t'adresses à la bonne personne. Et c'est là, cet homme a reconnu qu'il était pécheur et il s'est adressé à la bonne personne et il a obtenu ce dont il avait le plus besoin, c'est l'entrée au paradis. Parce que Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Écoutez, qu'est-ce que nous tirons de là ? Eh bien pour nous-mêmes. Finalement, ce n'est pas important de trop savoir comment demander. Et la réalité, c'est que beaucoup de ce que nous disons dans nos prières, nous disons beaucoup de bêtises. Mais oui, c'est comme le petit enfant, il a mal quelque part, il n'est pas bien, il pleure. Et puis alors, le parent lui dit, qu'est-ce que tu as ? J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, ça veut dire n'importe quoi. Il a peut-être mal aux dents, il ne se sent pas bien, il a sommeil, il ne sait pas quoi dire, il n'est pas en mesure, on ne peut pas exiger de lui qu'il sache savoir où il a mal. Et il dit ce qu'il peut dire, mais c'est aux parents de comprendre. Bon, les parents, ils devinent un peu et puis ils font par élimination, mais Dieu sait exactement ce qu'elle est le besoin. Hein. Donc, ne soyons pas trop préoccupés avec la formulation de la prière. On peut emprunter les prières de quelqu'un d'autre, mais la question c'est, ce qui importe c'est de s'adresser à la bonne personne, s'adresser à Dieu et au nom de Jésus-Christ. Il dit que cette prière que Jésus a faite, c'est pour ceux qui ont cru. J'ai remarqué que le mot prier ici, parce que prier en français on a le mot prier, puis voilà, Et c'est vrai que dans le sens français, le mot lui-même veut dire, quand on prie quelqu'un, ça veut dire qu'on insiste. Hein. Ce n'est pas seulement demander, c'est plus fort que demander, c'est demander avec insistance. Eh bien, c'est exactement le sens du mot ici aussi. Dans Jean chapitre 17, quand vous voyez le mot prier, c'est demander avec insistance. Et qu'est-ce qu'il a demandé ? Qu'est-ce que Jésus a demandé ? Eh bien, déjà au verset 11, et certainement ce que Jésus demande, ce n'est pas ce que nous aurions demandé. Hein. Si on avait voulu formuler la prière pour Jésus, eh bien, on aurait parlé autrement. Mais voilà ce que Jésus trouve de plus important pour nous, tout à fait essentiel. Au verset 11, il dit, « Je ne suis pas du monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père. » Saint, voilà la requête. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les afin qu'ils soient un comme nous. Voilà. Il nous garde, non pas pour que nous puissions réaliser nos petits projets, mais il nous garde pour que nous soyons un comme l'unité divine. Hein? Tout comme la Trinité. C'est un seul Dieu. Il dit, mais je veux que eux aussi, ça, ils soient tous un. Et garde-les pour qu'ils soient un. Je ne vais pas développer cela, mais seulement c'est cette pensée, Jésus l'a déjà exprimée, parce qu'il a parlé dans Jean 10, il a parlé du fait qu'il voulait qu'éventuellement il y ait un seul berger et un seul troupeau. Et puis, par la bouche de l'apôtre Paul, il a exprimé le fait que tous les enfants de Dieu forment un seul corps. Donc, cette, dans la variété, mais un. Donc, c'est l'intention de Dieu. Et si c'est ce que Jésus veut pour nous, eh bien, nous devrions travailler dans ce sens aussi. Et que cette unité de tous ceux qui croient, qui sont enfants de Dieu. Deuxièmement, verset 15, une autre requête de Jésus. Il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Il dit, je ne prie pas que tu les enlèves du monde. Et Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de s'extraire du monde. Va, retire-toi, parce que ce monde est mauvais, alors retire-toi. Le problème, c'est quand je me retire, c'est que mais le monde, il est dans moi aussi. Hein, ce n'est pas seulement les autres qui sont tous mauvais et moi, je suis bon. Mais moi, le péché est dans moi aussi. Hein. Je peux me retirer dans ma chambre, fermer les portes, et puis insonoriser complètement et tout ça. Et avoir des mauvaises pensées. Hein, le problème, c'est que je ne peux pas fuir le monde. Mais Dieu dit, ils sont dans le monde, c'est vrai. Mais là, préserve-les du mal. Jésus n'a pas abandonné ce monde au diable. Il n'a pas dit, écoute, voilà, ça c'est ton règne, et puis moi je prends les miens et je m'en vais. Il veut que ces personnes qui ont cru, qui lui appartiennent, il veut qu'ils soient dans le monde. C'est la volonté de Dieu que nous soyons dans le monde, que nous soyons dispersés dans le monde, parce que il nous veut comme ambassadeurs dans ce monde pour que nous manifestions la présence de Dieu. Comment est-ce que le monde va savoir que Dieu existe encore, hein, s'il n'y avait pas des croyants? S'il n'y avait pas des gens qui vivaient la vie sanctifiée par la vérité, la parole de Dieu, hein, comme il le dit ici, au verset 17 et 18, il dit, je veux qu'ils soient sanctifiés par la parole. S'il n'y avait pas ces chrétiens qui vivent, eh bien les gens croiraient que Dieu, ou il est mort, ou il s'est éloigné, ou il a abandonné le monde, et c'est à nous de gérer ça tant bien que mal. Et certains le croient, mais... Il dit non, je veux que mes disciples soient là. Et de par notre présence, eh bien, tout comme. Comment est-ce que. Tout à l'heure, on lisait dans Jean chapitre 4, il disait les Samaritains du village de Sychar ne savaient pas que Jésus était présent. Ils ne savaient pas qu'il était dans le parage. C'est la femme samaritaine qui l'a rencontré et qui l'a fait connaître. Eh bien, c'est un peu ce rôle-là que nous avons. Nous sommes là, le monde ne sait pas que Dieu est présent, disponible, accessible, mais ce sont les croyants, par leur présence, par leur vie, qui vont démontrer qu'il est là. Hein? Donc c'est Dieu, Jésus dit, je prends le risque de les laisser là dans le monde, mais garde-les, Père, garde-les. Et troisièmement, les versets 20 et 21, et il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient tous un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il demande que, on a l'impression qu'il se répète, mais ce n'est pas exactement, il dit qu'ils soient un. Qu'il soit un, qu'il y ait une unité de croyants sur terre. Non pas, hein, je connais l'expression française qui dit « l'unité fait la force », mais c'est pas pour ça qu'il nous veut, parce que la force de l'Église n'est pas dans notre unité, parce que sinon, c'est malheureux, hein, avec l'unité qui existe. Et si la force de Dieu devait être représentée par l'unité de l'Église, alors là, ce serait bien triste, c'est pas étonnant que le monde ne le cherche pas. Mais il dit, je veux qu'ils soient unis pour que le monde sache que tu m'as envoyé. C'est-à-dire, lorsque cette unité existe, lorsque dans notre communauté cette unité existe et quelqu'un vient, il se dit, mais Jésus, ça doit être du vrai. Parce que je vois le changement dans ses vies. Parce que je vois que c'est des gens comme moi qui vivent autrement. Et Jésus, ce n'est pas seulement un homme qui avait de bonnes intentions et qui aurait voulu améliorer notre monde, mais qui finalement, ça s'est mal terminé pour lui. Il n'est pas mort en martyr, il est mort en sauveur. Et il dit, et Jésus dit, voilà, je prie pour ses disciples pour que tu les gardes dans le monde, que tu les préserves du mal et que par leur présence, eh bien, ils manifestent qui je suis et que je suis là. Et peut-être que ça a bien commencé dans les premiers siècles, hein, les disciples, il y avait cette unité pendant un temps, mais c'est vrai que le monde peut nous jeter à la figure l'histoire de l'Église et c'est pas toujours très beau. Et voilà. Mais cela n'empêche que Jésus est réel. Hein. Le problème, c'est ce qui a été fait au nom de Christ et non pas Christ. Jésus a prié et ce que Jésus demande du Père, il l'obtient toujours. Nous devons croire que cette prière est exaucée. Même Jésus dira devant la tombe de Lazare, il dit « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Il l'a dit à haute voix, avant d'appeler Lazare. Il dit « Père, bon, je te parle, bon, je sais que tu m'exauces toujours. » Et cette prière de Christ dans Jean chapitre 17, eh bien, l'exaucement est là. Et un de ces jours, cette unité existera. Hein. Ce n'est pas les hommes qui le feront, ce n'est pas les congrès, ce n'est pas les mouvements ecuméniques qui vont rassembler, mais c'est lorsque, j'ai apprécié une fois l'image d'une roue de bicyclette. Vous avez tous les rayons, plus ils se rapprochent du centre, plus ils se rapprochent les uns des autres. Et en fait, c'est ça qui fait faire l'union de l'Église, c'est plus on se rapproche de Christ, plus on se rapprochera les uns des autres. C'est lorsque nous avons les regards sur autre chose que nous nous dispersons. Et pourquoi est-ce que nous avons le contenu de Jésus a prié, hein, c'est ce qu'il a prié, mais pourquoi est-ce que nous avons le texte de sa prière ? Peut-être est-ce que c'est le résumé, peut-être c'est toute la prière, je ne sais pas. En tous les cas, on a l'esprit de la prière. Mais pourquoi est-ce que nous l'avons là ? Eh bien, d'abord pour nous dire ce que Jésus recherche. Hein, s'il l'a prié, c'est que c'est son désir. Et si moi, je veux m'harmoniser, hein, je veux me synchroniser sur la pensée de Christ, eh bien, je dois avoir les mêmes pensées qu'il a là. On n'est pas là pour démolir, on est là pour construire, pour travailler dans le même sens que lui. Et aussi, cette prière est là, c'est pour nous rassurer, parce que finalement, si ça dépendait de notre performance en tant que chrétien, de réaliser cette union, cette unité, je veux dire, eh bien, il faudrait exister pendant longtemps. Et je ne sais pas si on y arriverait. Tandis que, quand je sais que Christ l'a demandé, eh bien, je sais que ça se fera. Un jour, cette unité existera. Et lorsque nous lisons dans l'Apocalypse, eh bien, quand Jean a regardé dans le ciel, eh bien, il a vu une foule nombreuse. Il n'a pas vu des communautés, il n'a pas vu des clochers, il a vu une foule nombreuse. Cette prière sera exaucée. Et à nous maintenant de ne pas nous occuper de l'œuvre de Dieu. Il fera ce qu'il a à faire. Cette prière était adressée non pas aux disciples, mais adressée au Père. Hein, c'est lui qui le réalise. C'est à nous, c'est de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Pour employer encore l'image, vous savez, ce troupeau qui est dispersé sur le pré, des brebis sont un peu dans tous les sens en train de prier, de paître, et puis tout d'un coup le berger décide que c'est le moment de rentrer. Bon, et bien alors, toutes les brebis, qu'est-ce qu'elles ont à faire? Elles lèvent la tête, elles voient dans quelle direction part le berger, et naturellement, elles se retrouvent toutes sur le même chemin. Pas parce qu'elle se consulte, dit, tu vas dans quelle direction toi? Et toi, tu vas où? Là, ce serait la pagaille qu'on a dans le christianisme aujourd'hui. Tandis que lorsque chaque brebis a les yeux fixés sur le Seigneur, et puis dit, moi je le suis, eh bien, on se retrouvera tous près de lui. Hein? Alors, ne soyons pas découragés en regardant autour de nous. Le Seigneur a dit, toi, les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, c'est le désir du Seigneur, et la seule manière que ça se réalise, c'est quand j'ai les yeux fixés sur le Seigneur. Et c'est étonnant parce que, bon, j'ai circulé dans pas mal de milieux, dans différents pays et tout cela. Et vous savez, quand on se retrouve avec des gens qui aiment le Seigneur, on se retrouve proche d'eux. Et même s'ils ne font pas les choses exactement de la même manière que nous. Mais lorsqu'ils aiment le Seigneur, on se retrouve proche parce qu'on a le Seigneur en commun. Et c'est là, c'est pas de l'œcuménisme, ça c'est de l'unité en Christ. Et c'est ce que le Seigneur désirait. Et ce que la Bible ne prêche pas de clocher, il n'y en avait pas quand Jésus était là, il n'en a pas créé, et puis il n'y en a pas au ciel. Donc quelque part, tout ça, ça va rester sur terre comme beaucoup d'autres choses. Un jour, nous serons dans la gloire. Cherchons la présence de Jésus. C'est pour cela qu'il a prié, c'est ce qu'il veut, et donc c'est à moi de m'aligner sur sa pensée. Une prière pour moi. Hein, quand il a prié pour tous ses disciples, et si je suis un disciple, c'est une personne qui suit le maître, le dit. Et donc si je fais partie de ces disciples qui ont cru, tout simplement comme le brigand sur la croix, eh bien, ayons les regards fixés sur Jésus. Et cette prière se réalisera, et nous ferons partie de cette unité que Dieu veut créer, être unis en Jésus-Christ. Ensuite, je vous invite à tourner dans Jean-Luc chapitre 22. C'est une autre prière de Jésus pour un disciple. Luc chapitre 22 et les versets 31 et 32. Luc, là on a vu la prière sacerdotale de Jésus. Là nous voulons voir la prière d'intercession de Jésus. Et si elle nous est rapportée, ce n'est pas pour nous dire du mal sur Pierre, mais pour nous rassurer, parce que nous sommes souvent comme Pierre. Alors, Luc 22, versets 31 et 32, ils disent, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Si on s'arrête et on médite un peu là-dessus, on trouve ça un peu bizarre. Encore une fois, quand Jésus dit que j'ai prié pour toi, il dit j'ai plaidé pour toi. J'ai plaidé. Comme un avocat. Il a dit, et j'ai prié pour toi, verset 32, afin que tu ne défailles point. Pierre est complètement inconscient de la chose. Regardez ce qu'il dit après, au verset 33. Regardez comment Pierre répond. Il dit, Seigneur, lui dit Pierre, moi je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Il dit, c'est pas la peine de prier pour moi. Hein. Tu pries pour les autres peut-être, mais pas la peine de prier pour moi. Hein. Moi, je suis fidèle jusqu'au bout. Lui, il n'est même pas conscient que Satan a des projets, il veut faire des choses. Et lui, il est confiant. Il dit, Seigneur, écoute, c'est gentil, mais bon, ce n'était pas nécessaire. Hein. Moi, c'est garanti. Et Pierre était certainement sincère hein, quand il a dit, moi, je suis prêt, je suis sûr qu'on ne pouvait pas être plus sincère que lui. Hein, Pierre, c'était celui qui était du tout ou rien. Hein. Mais il était naïf dans son erreur et il a sous-estimé ses capacités de rester fidèle. Et heureusement pour lui que Jésus a prié pour lui. Parce que si Jésus a prié, Jésus n'a pas prié juste pour la forme, il a prié parce que c'était nécessaire de prier. C'était pour son bien. C'était pour le préserver. Et Jésus n'a pas demandé l'autorisation de Pierre. Il lui a dit, Pierre, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Tu ferais mieux de prier pour l'autre là. Non, non. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Regardez, c'est un peu curieux que ce que Jésus dit. Il dit, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Déjà, vous, c'est certainement les disciples. Et deuxièmement, il dit réclamer. Le mot réclamer, c'est dans le sens de, mais moi j'ai des droits. Hein, quand vous réclamez quelque chose, c'est que normalement c'est à vous. Hein, vous réclamez vos droits, vous réclamez votre réduction, vous réclamez votre loyer, vous réclamez, c'est quelque chose. Il dit, Satan vous a réclamé. Lui considère que vous êtes à lui et que Dieu doit vous rendre à lui. Satan vous a réclamé. Vous savez, il y a une autre récit dans l'Ancien Testament qui ressemble un peu à ça, hein, Job. Satan vient et puis il demande à Job, il dit, tu sais, Job, tu crois qu'il te croit vraiment, hein, tu crois qu'il vraiment, mais la réalité, c'est pas ça. Hein. Et vraiment, il est comme les autres, hein, il est à moi. Hein. Et Job, il doit traverser cette épreuve. Et là, encore une fois, et sachez que si Satan est venu réclamer les disciples, c'est qu'il, lui déjà, il sentait que ses disciples, ça va être dangereux pour lui, hein, pour la suite. Et qui sait combien de fois Satan nous aurait réclamé, hein. S'il l'a fait pour Pierre, pourtant Pierre, hein, pour l'instant, là, à ce moment-là, il n'était pas encore, il n'avait pas très bien compris tout ce qui se passait. Et il y avait encore pas mal de choses à mettre au point dans ses pensées, mais il était fidèlement attaché au Seigneur. Et là, Pierre même, je viens de dire qu'il a ce sentiment que moi, tu peux compter sur moi. Mais Jésus dit, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Il a dit, j'ai pas prié pour vous. Il dit, j'ai prié pour toi. Il dit, comme si Pierre serait peut-être celui le plus apte à tomber, alors que lui croyait être le plus fort. Il dira, on peut le lire dans Matthieu 26, il dit, Seigneur, même si tous les autres te renient, moi, je reste fidèle. Et peut-être c'est justement à cause de ces pensées-là que justement il était le plus apte à tomber. Parce que l'apôtre Paul nous dira, hein, il nous dira que donc celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Hein. Si tu es trop sûr de toi, si tu es capable, tu dis moi, je vois clairement, je peux me maintenir, je sais, je discerne, je vois, moi on ne mourra pas. Il dit, Satan vous a réclamé tous, mais Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et puis, Pierre, c'est le premier étonné, et Jésus est obligé de lui dire, écoute, tu verras, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Pierre, du fou. Mais quand le coq a chanté, tout d'un coup, il s'est souvenu. Et il a prié et il a pleuré amèrement. Mais heureusement pour lui que Jésus avait déjà prié pour lui. Il ne se rendait pas compte combien sa vie était menacée, et combien il était en danger, quel était son besoin. Il dit, Satan vous a réclamé, c'est pour vous cribler. Vous savez, comme du froment, hein, comme du blé. À l'époque, à la moisson, bien sûr, c'est à la faucille où on coupait le blé et puis on l'attachait en gerbe on le portait jusqu'à une aire, c'est un point élevé, plat. On déposait toutes ces gerbes comme ça, puis après on faisait passer des animaux dessus, et avec leurs sabots, ils séparaient le grain de l'épi. Et puis ensuite, après un certain moment, donc on retirait la paille, hein, on enlevait la paille, il restait tout le chaume, et puis le grain et tout cela, et la balle. Et alors après, à ce moment-là, on jetait le tout en l'air, et puis on comptait sur la brise pour prendre la balle, emporter la balle, et puis les grains retombaient directement sur place. On arrive là, donc la paille est enlevée, la balle est enlevée, il reste du grain, et puis maintenant c'est le moment de cribler. Parce que, bon, dans les champs, hein, c'était, à l'époque c'était bio, hein, c'était pas comme maintenant, hein, il y a toutes sortes d'autres graines, hein, qui peuvent être mélangées, d'autres trucs, des petits cailloux, toutes sortes de choses. On passe au tamis, c'est pour séparer le grain, pour qu'on n'ait que du blé, hein, que le vrai grain. Et ils disent, Satan, en fait, voulait vous secouer dans votre foi, et vous perturber. Et vous savez combien de fois, et puis chacun de nous, je pense que, à un moment de notre vie, peut-être plus d'une fois dans notre vie, nous avons été un peu secoués dans notre foi, perturbés, nos pensées tout d'un coup, on part un peu dans tous les sens. Et c'est sûr que l'ennemi veut le faire, mais heureusement, Jésus prie pour nous. Il a dit « J'ai prié pour toi ». Et le Seigneur est là, et nous pouvons compter heureusement parce que combien d'entre nous, il y a longtemps qu'on serait déjà loin, loin, loin. Mais le Seigneur prie pour nous, et puis on se ressaisit, on remet les visages, les yeux sur le Seigneur, on replonge les regards dans la parole, et on reprend courage et assurance. Le Seigneur permet parfois que nous soyons éprouvés, et on peut même ressentir le feu de l'épreuve, mais non pas pour nous détruire, parce que l'apôtre Paul, lui, qui a été pas mal éprouvé, dira « Aucune tentation ou aucune épreuve ne peut être survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Il dit, il vous laissera passer, juste de vous secouer assez pour que vous ne sentiez pas trop fort, mais pas assez pour que vous soyez détruit. Et là, Jésus dit, j'ai une prière pour toi. C'était pour Pierre, c'était pour, il dit, tous les disciples, Satan avait voulu les cribler, et puis les disciples par extension, ben nous sommes ses disciples aussi, et il n'est pas étonnant que Satan veuille nous réclamer, surtout que si nous avons été à lui, et nous avons vécu pour lui, et puis maintenant nous avons été arrachés par l'amour de Dieu. Ne fuyons pas l'épreuve. Jacques 1, 12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Il dit, je ne sais pas si vous avez pu voir ces jeunes qui vont regarder la liste des résultats du bac. Leur avenir pèse et il est là sur ce papier. Et on parle de l'épreuve du bac. Et après, je l'ai. Et j'ai reçu des textos, j'ai reçu des messages sur Facebook et toutes sortes de choses. J'ai le bac. On m'a appelé de la région parisienne pour dire j'ai le bac. Je l'ai avec mention. Ouais. Camille, tu comprends un peu de quoi on parle ? Voilà. Et Oui, on a senti l'épreuve. Hein, il y en a qui ont sué, et puis la crainte, et puis l'anxiété, et puis les mauvaises nuits, et puis. Mais après, de trouver son nom sur la liste, alors le plaisir est d'autant plus grand. Et il y a quelque chose pour moi, parce que j'ai traversé l'épreuve. Et les épreuves que Dieu permet sont pour nous faire grandir et nous affermir dans la foi. Les tentations de Satan sont pour nous faire chuter. Et là, il nous tente avec des passions qui sont en nous. Tandis que Dieu nous éprouve pour nous affermir. Et vous savez, tout à l'heure, Jésus a dit, il dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, et quand tu seras revenu, tu affermiras tes frères. » Le résultat, c'est que « J'ai prié pour toi, tu traverseras l'épreuve. » C'est vrai que Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Mais qui s'est levé le premier, le jour de Pentecôte? Pierre. Et quand Pierre s'est levé, tous les autres se sont levés. Et puis, les choses ont changé à Jérusalem. Il dit, j'ai prié pour toi, tu passeras par l'épreuve, mais ensuite, tu sais, parce que j'ai prié pour toi, tu affermiras les frères. Et peu importe si l'un d'entre nous passe par un moment difficile, c'est à nous autres de prier pour cette personne, pas pour qu'il ne soit pas éprouvé, parce que si on n'est jamais éprouvé, on est mou comme de n'importe quoi, hein. Vous savez, si on veut développer de l'endurance dans la course, c'est pas en restant au lit, hein. C'est pas avec la pensée positive qu'on arrive à développer de l'endurance, hein, dans la course. Il faut s'y mettre. Mais pour le chrétien aussi. Pour le chrétien aussi. Vous savez ce que je remarque dans la vie chrétienne, c'est une tension qui existe. Une tension que, d'un côté, le Seigneur nous dit « Tiens bon, sois fidèle, accroche-toi. » Et puis d'un autre côté, il te dit « J'ai prié pour toi. » Te garde. Et il y a constamment. Et c'est cette tension-là qui nous permet d'avancer, de croître dans notre vie chrétienne. Un bon père entretient cette même tension avec ses enfants, si vraiment il veut les voir se développer, s'épanouir. Vous savez, nos enfants sont pas, on n'élève pas nos enfants comme l'autruche élève ses petits. L'autruche trouve du sable, pond ses œufs, et puis après les abandonne. Et c'est la chaleur du sable qui fait éclore l'œuf, le petit apparaît, il n'a jamais rencontré sa mère, il ne sait pas d'où il vient. Et puis, tant bien que mal, essaye de s'en sortir. Heureusement que nos parents, ils n'ont pas élevé comme ça. Hein. Mais heureusement pour eux, que quand ils naissent, il y a un instinct d'autruche en eux. Et sans avoir jamais eu d'éducation, ils savent comment se comportent les autruches. Et quand ils ont peur de quelque chose, ils mettent la tête sous le sable. Hein. Mais il n'y a pas de relation. C'est l'instinct qui décide. Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas mis en lui un instinct où, comme des robots, on fonctionne. Il a dit non, je vous donne absolument rien. En fait, on est avec un seul petit geste. C'est le bébé dès la naissance. Tout de suite, il tourne la tête vers le sein. C'est tout ce qu'il sait faire. Et puis à partir de là, tout le reste, c'est appris. Il faut le développer. Et Mais ce qui oblige d'avoir une relation, de maintenir une relation, la maman et le bébé, les enfants avec le père, avec la mère, avec les parents, c'est entretenir cette relation. Et c'est et au fur et à mesure qu'on l'entretient, l'un injecte, et puis on laisse faire des expériences, mais en même temps on les garde pour ne pas faire trop des expériences trop dangereuses. Bon, parfois j'ai échappé à mes parents un petit peu, j'ai fait des choses un peu dangereuses, mais vous savez, mais c'est la différence, c'est que Dieu ne crée pas en nous un instinct, hein, mais il crée en nous le besoin d'une relation. Et cette relation, c'est ce qui permet de se développer, c'est ça la beauté de la vie chrétienne, c'est la relation avec Dieu. Ce n'est pas des réflexes, ce n'est pas des gestes appris, mais c'est une relation avec Dieu. Et c'est dans cette relation avec Dieu, il dit, écoute, vas-y, mais je suis là. Hein, c'est comme le père qui enseigne à son enfant comment faire de la bicyclette. Il dit, allez, monte. Oui, il prend le risque de se casser la figure, ça c'est sûr. Mais le père est là aussi pour un peu maintenir. Et puis il attrape la bicyclette, il lâche, il prend, il lâche, jusqu'à ce qu'on apprenne. Mais c'est comme ça que Dieu travaille avec nous. C'est ça la beauté de la relation avec Dieu. C'est que il me dit, vas-y, marche, lève-toi, prends. Mais il dit, je prie pour toi. Et t'en fais pas. Et vous savez, l'histoire de Pierre, même si ce n'était pas flatteur pour lui, mais c'est un grand encouragement pour nous. C'est que Pierre, tu ne te rends même pas compte du danger qui te guette, mais moi je l'ai vu, j'ai prié pour toi. Et après il a laissé traverser, mais il en est sorti plus fort. Vous savez, j'ai une prière pour toi. Il y avait une prière d'intercession, il y a une prière sacerdotale, Jésus en tant que prêtre qui prie pour nous, sur ce lien entre nous et Dieu, et puis il y a Jésus qui prie pour nous dans notre marche quotidienne. C'est une grâce. Et vous savez, il n'y a qu'en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans une religion qu'on le trouve, même si c'est du christianisme, c'est dans la Bible qu'on le trouve, et dans la personne de Jésus-Christ. Et il dit, et comment y accéder? Eh bien, tout simplement comme ce brigand y est accédé, il a obtenu le maximum. Et il ne sait pas trop quoi demander. Et si vous êtes dans cette situation, vous ne savez pas quoi demander à Dieu, dites, mais Dieu, je suis comme un bébé, je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Tout ce que je sais, c'est que j'ai faim ou j'ai sommeil. Après, c'est à toi de vous trouver. Mais le Seigneur, parce qu'il nous aime tant, eh bien, il nous apporte ce dont nous avons besoin. Et il nous accompagne, mais il ne nous porte pas, il ne veut pas des enfants gâtés, il ne nous laisse pas. Il dit, écoute, je veux que tu aies aucune épreuve, que la vie facile soit toujours facile. Chaque fois que tu es malade, je te guéris. Chaque fois que tu es fatigué, je te donne des forces. Chaque fois que quelqu'un te veut du mal, je te protège. On aurait des chrétiens mous comme bons à rien. Mais dis non, je te laisse, mais je suis là, j'accompagne. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que, et c'est ce que nous verrons Dieu voulant la semaine prochaine, c'est cette prière où Jésus nous dit, quand vous priez, dites notre Père. Et tout est là-dedans. On va laisser ça jusqu'à dimanche prochain, mais déjà pour aujourd'hui, eh bien souvenons-nous que nous avons cette grâce, c'est qu'il y a une prière pour nous. Et le Seigneur prie pour nous. Prions et remercions le Seigneur pour cela. Père Céleste, encore une fois, quelle joie de t'appartenir. Et nous pouvons t'appartenir par la foi, en nous adressant à toi, en reconnaissant notre état, et puis en s'adressant à toi comme le seul qui peut intervenir pour changer et pour nous donner la vie éternelle. Et Père, te remercions aussi que lorsque tu donnes la vie, tu nous accompagnes. Comme de bons parents qui donnent la vie à un nouveau-né, mais après qui l'accompagnent jusqu'à l'âge adulte. Père, tu nous accompagnes jusqu'à ce que nous entrions dans ta présence. Merci pour un si grand amour. C'est vraiment en toi que nous voulons placer notre foi. Et comme l'ont dit les disciples, vers qui irions-nous? Seul toi, tu as les paroles de vérité. À toi toute la gloire, la louange et pour l'éternité. Amen.